Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Madame à Paname, le podcast pour apprendre le français et découvrir la culture française. Je m'appelle Marion, j'habite à Paname et Paname, c'est le nom qu'on donne à la ville de Paris. Retrouvez la transcription de l'épisode, la fiche de vocabulaire expliquée, le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapaname.com. Alerte concours! Vous savez qu'en juillet, j'ai publié mon tout premier livre « Je parle français avec Madame à Paname ». Eh bien, je vous propose de gagner un exemplaire dédicacé à votre nom. Je vous signe le livre avant de vous l'envoyer. Pour participer, c'est simple. Vous remplissez le formulaire. Le lien est dans la description de cet épisode. Vous mettez votre nom et votre email et c'est tout. Les gagnants seront tirés au sort le 6 octobre, dans 2 semaines. Il y aura 3 gagnants, donc participez et vous verrez si la chance vous sourit. Est-ce que vous saviez que la Joconde avait été volée au Louvre et qu'on avait mis des années à retrouver le tableau? Oui, je vous raconte tout dans cet épisode. La Joconde, vous la connaissez, c'est une femme au sourire énigmatique peinte par le génie de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci. Et c'est évidemment l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Alors, vous dites peut-être Mona Lisa. En français, en général, on l'appelle la Joconde. Mona Lisa, la Joconde, c'est la même chose. On parle bien du même tableau. Aujourd'hui, on peut voir la Joconde au musée du Louvre, à Paris. Savez-vous depuis quand elle y habite? Devinez. 1797. Oui, cela fait plus de 200 ans que la Joconde est au Louvre et c'est l'une des pièces maîtresses de l'impressionnante collection du musée du Louvre. Et sachez que la Joconde attire entre 15 000 et 20 000 visiteurs par jour. Oui, par jour. En fait, quand vous arrivez dans la salle où se trouve la Joconde, il y a toujours énormément de monde. Le tableau est derrière une vitre de protection et il y a 2 équipes parmi les visiteurs qui la voient pour la première fois. Il y a ceux qui sont déçus parce que le tableau est assez petit, qu'on ne voit rien, parce qu'on est loin et qu'il y a beaucoup de monde. Et ceux qui sont émerveillés de voir l'original, enfin, devant eux. En fait, c'est une salle du musée où il y a beaucoup d'émotions. Et j'aime bien regarder la réaction des gens quand ils découvrent ce tableau. Aujourd'hui, la Joconde est extrêmement bien protégée par une vitre, comme je vous le disais, mais il y a aussi un périmètre de sécurité à respecter. On ne peut pas trop s'approcher. Et il y a aussi plusieurs caméras et des gardiens la surveillent en permanence. Combien de gardiens surveille la Joconde, à votre avis? 6. Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Joconde est aussi bien protégée? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mesures de sécurité? Elle est très célèbre, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule œuvre très célèbre du Louvre. Eh bien, sachez que la Joconde a déjà été volée. Oui, un jour, la Joconde a mystérieusement disparu. Écoutez bien, je vais vous raconter cette histoire complètement folle. Remontons le temps. Nous sommes le mardi 22 août 1911 à Paris. Ce jour-là, il fait particulièrement chaud. Nous sommes en plein été et une vague de chaleur frappe la France. C'est l'un des mois les plus chauds jamais enregistrés dans la capitale française. Deux artistes se rendent au Louvre, leur matériel de dessin et de peinture sous le bras, pour admirer les œuvres du musée, s'en inspirer et effectuer des croquis. Ce sont deux habitués du musée, Louis Bérou et Frédéric Laguillermi. Ce jour-là, Louis Bérou et Frédéric Laguillermi ont justement décidé de se rendre dans la salle où se trouve habituellement la Joconde pour en dessiner une copie. Et là, surprise, sur le mur où devait se trouver le tableau, rien. La Joconde n'est pas là. Sa place est vide. Il ne reste que les clous qui maintenaient le cadre. Étonnés, les deux artistes appellent les gardiens pour leur demander ce qu'il se passe. Les gardiens aussi sont surpris de découvrir que le tableau n'est pas à sa place. Mais ils essaient de trouver une explication logique. Il doit probablement être dans les locaux de la maison Brunnen Company, photographe officiel du musée du Louvre. Bon, après vérification, non, la Joconde n'y est pas. Le personnel du musée commence à s'inquiéter. L'œuvre a-t-elle été déplacée ? Aucune restauration du tableau n'est pourtant prévue. On s'inquiète de plus en plus. Le musée est intégralement fouillé pour tenter de retrouver le précieux tableau. On ne le retrouve pas. C'est la panique. Le tableau n'est nulle part. Il faut bien l'admettre. Oui, la Joconde a disparu. Personne ne sait où elle est. Personne ne sait ce qu'il s'est passé. Alors, on prévient la police et plus de 60 enquêteurs et même le préfet Louis Lépine lui-même arrive au musée pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Comment la Joconde a pu disparaître ? Ils font fermer le musée et encore une fois, chaque pièce, chaque couloir, chaque placard est minutieusement fouillé. Et surprise, on trouve bien quelque chose. Dans un petit escalier de service, normalement fermé au public, on trouve un cadre en bois et une vitre qui protège normalement un tableau. Ce sont bien le cadre et la vitre de la Joconde. C'est une piste qui confirme toutes les craintes. Cette fois, c'est sûr, la Joconde a bien été volée. Mais quand ? Comment ? Pourquoi ? Et surtout, par qui ? Personne ne sait. Personne n'a rien vu. Et quand la presse révèle la disparition de la Joconde, c'est un véritable scandale. Les enquêteurs se concentrent sur les seuls indices qu'ils possèdent, le cadre et la vitre. Et ils découvrent quelque chose, une empreinte digitale sur la vitre. C'est un indice précieux. Alors, les 257 employés du musée du Louvre sont interrogés. La police relève évidemment les empreintes de tout le monde, mais sans résultat. Aucune empreinte ne semble correspondre à celle retrouvée sur la vitre du tableau. Les enquêteurs n'ont aucune piste. Pendant ce temps-là, la presse ne parle plus que de cette affaire. Imaginez, l'une des plus célèbres et plus importantes œuvres du monde, un tableau d'une valeur inestimable a été volé. Cette histoire devient très vite une affaire internationale et les journaux du monde entier parlent du vol de la Joconde. Toutes sortes d'hypothèses sont envisagées, imaginées. Puis, rapidement, la police pense qu'il s'agit d'un canular, d'une blague organisée par la presse pour ridiculiser le musée du Louvre, les conservateurs et les gardiens. Ça vous semble étrange ? Il faut se remettre dans le contexte. En fait, la police pense à un certain Roland Dorgelès, journaliste et écrivain, qui a plusieurs fois montré à quel point la sécurité du Louvre était peu fiable, en faisant des blagues et en les racontant ensuite dans son journal. Je vous explique. Un soir, par exemple, Roland Dorgelès a réussi à passer la nuit au musée, caché dans un sarcophage égyptien. Une autre fois, ce même Roland Dorgelès a déposé une statue en pierre sculptée par l'un de ses amis au milieu des antiquités grecques du Louvre. Il l'a laissée là pour voir si quelqu'un allait remarquer et il a avoué un mois plus tard alors que personne n'avait rien remarqué. Cela a bien fait rire la presse et Roland Dorgelès, tout fier, a dénoncé ainsi le manque de sérieux du musée du Louvre. Alors, cette disparition de la Joconde, encore un coup de Roland Dorgelès ? Les vérifications sont faites, et non, cette fois-ci, ce n'est pas lui. Cette piste est rapidement abandonnée. Mais un artiste très célèbre est soupçonné. Est-ce que vous le connaissez ? C'est Guillaume Apollinaire. À cette époque, il n'est pas encore célèbre. Il est un petit peu connu dans le milieu des artistes parisiens, mais il n'a pas encore de véritable renommée publique. Et si la police le soupçonne, c'est à cause d'un certain Géry Pierret, l'un de ses amis. En fait, le 28 août 1911, une semaine après la disparition de la Joconde, Géry Pierret, provocateur, va dans les locaux du journal Paris Journal avec une petite statue qu'il présente comme un objet qu'il a lui-même volé au Louvre, prouvant lui aussi que le musée n'est pas très bien gardé. Alors, il va à Paris Journal de manière anonyme. Et il précise aussi qu'il a déjà volé d'autres statuettes au Louvre. Où sont-elles ? Il les a vendues. À qui ? Oh, à un ami peintre. L'histoire sort dans la presse, scandale, et en lisant cela, Guillaume Apollinaire s'affole. Il reconnaît toute cette histoire parce qu'il connaît bien un homme qui a vendu de mystérieuses statuettes à un ami peintre, comme c'est écrit dans le journal. Il comprend tout de suite que la personne anonyme, c'est Géry Pierret, parce que Géry Pierret était l'un de ses amis, il dormait même chez lui, mais ils se sont disputés quelques jours plus tôt et Géry Pierret a dû partir. Bon, très bien. Mais, à votre avis, qui a acheté les statuettes volées au Louvre? Vous le connaissez. C'est un peintre espagnol très très célèbre qui habite à Paris à l'époque. Pablo Picasso. Je vous assure que c'est vrai. Je vous dis, c'est une histoire folle. Donc, Apollinaire, paniqué, décide d'aller en parler à Picasso. Les deux amis découvrent dans la presse que les statuettes que possède maintenant Picasso sont des trésors volés au Louvre. Alors, que vont-ils faire ? Aller voir la police ? Non. Après de longues discussions, Picasso et Apollinaire décident de montrer au journal Paris Journal les statuettes achetées à Géry Pierret et c'est Guillaume Apollinaire qui y va de façon anonyme, bien sûr. Imaginez si la police découvre cela. Et de nouveau, un article paraît dans la presse. C'est scandale sur scandale. On ne parle plus que de ça. Bon, vous imaginez bien que la police fait des recherches et les enquêteurs arrivent à obtenir l'identité de Guillaume Apollinaire. Et le 7 septembre 1911, Apollinaire est arrêté et emprisonné. Il est mis en prison car il est accusé d'être complice, voire commanditaire dans le vol des statuettes. Et il est donc aussi suspecté d'être impliqué dans le vol de la Joconde. Ça va très, très loin. Bon, finalement, les enquêteurs se rendent compte que ce n'est pas lui, qu'il n'y est pour rien, ni dans l'histoire des statuettes, ni dans celle du vol de la Joconde. Et, au bout de 5 jours, les poursuites sont abandonnées. Apollinaire est libéré. La police a perdu son temps. Retour à la case départ. On ne sait toujours pas où est passé le tableau de Léonard de Vinci. Aucune piste. L'enquête n'avance pas. Les jours passent, puis les semaines et les mois, et toujours rien. La police n'a plus aucune piste, aucun suspect, absolument rien, aucune trace de la Joconde. Le ou les voleurs devaient être sacrément organisés, des professionnels sans doute, et la Joconde doit alors se trouver bien loin de Paris. Mais pendant ce temps-là, au musée du Louvre, attention, c'est complètement paradoxal, les visiteurs viennent de plus en plus nombreux pour voir l'emplacement vide de la Joconde. Oui, oui, ils viennent précisément pour ne pas voir un tableau. Même ceux qui n'avaient jamais vu le tableau veulent voir son absence. Cette histoire fascine vraiment le public avec les rebondissements et tout le mystère qui l'entoure. La Joconde devient encore plus célèbre à ce moment-là. Et il ne se passe plus rien pendant 2 ans. La presse en parle de moins en moins et il n'y a plus grand-chose à dire. Le tableau semble avoir définitivement disparu. Mais en décembre 1913, il se passe enfin quelque chose. Alfredo Geri, un célèbre marchand d'art de Florence en Italie, prépare une grande exposition et il reçoit une lettre d'un mystérieux Leonardo. Ce Leonardo écrit qu'il possède une œuvre d'art absolument extraordinaire. La Joconde de Léonard de Vinci. Et il lui explique par écrit que c'est lui qui l'a volée au Louvre et il lui propose tout simplement de lui vendre l'œuvre pour son exposition. Bon, Alfredo Geri n'y croit pas vraiment. Il le prend un peu pour un fou, mais il est quand même un peu intrigué et il accepte un rendez-vous. Le mystérieux Leonardo invite Alfredo Geri dans son hôtel à Florence. Le guide jusqu'à sa chambre et lui présente le fameux tableau. Alfredo Gerry, qui est très expérimenté, analyse le tableau et il n'en croit pas ses yeux. Le tableau est ancien et il est bien possible que ce soit l'original. Mais pour en être vraiment certain, il propose à Leonardo de présenter le tableau à M. Poggi, directeur du musée des offices de Florence, afin de négocier l'achat du tableau pour l'exposition. Leonardo accepte. Peu après, M. Poggi vient alors examiner l'œuvre et il n'a aucun doute. Il confirme que c'est bien l'original. C'est la Joconde, la vraie, celle qui a été volée 2 ans plus tôt au Louvre et que le monde entier recherche. Il l'a sous les yeux. C'est complètement fou. Le tableau est venu à eux sans qu'ils n'aient rien demandé. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Est-ce que M. Poggi achète le tableau? Est-ce qu'il contacte la police? Il contacte la police, évidemment. Et le mystérieux vendeur, Leonardo, est arrêté à son hôtel. Pourquoi avoir volé la Joconde? Pourquoi ce tableau? Il est très célèbre, mais peut-être même trop célèbre. Impossible de voir réapparaître la Joconde dans une exposition 2 ans plus tard, comme par magie. Le voleur devait bien se douter de tout ça. Alors, quelles sont ses motivations? Et déjà, qui est-il? Eh bien, la police italienne qui interroge Leonardo découvre que c'est un faux nom et que l'homme s'appelle en réalité Vincenzo Perugia. C'est un Italien installé à Paris. Et ce Vincenzo Perugia est scandalisé par son arrestation et il explique à la police que oui, d'accord, c'est bien lui qui a volé le tableau au Louvre, mais c'était simplement pour ramener la Joconde en Italie. Il accuse Napoléon de l'avoir volée à l'Italie et il dit qu'il voulait simplement la restituer, la rendre, la remettre à sa place dans le pays auquel elle appartient. Ça le rendait fou de savoir que ce chef-d'œuvre était fièrement exposé en France, alors que De Vinci était un grand maître italien. Selon lui, l'Italie, au lieu de l'arrêter, devrait le remercier, non? À peine 2 jours après son arrestation, le New York Times publie l'histoire dans un article et c'est là que le grand public découvre comment la Joconde a été volée par Vincenzo Perugia. Revenons 2 ans plus tôt. Le 21 août 1911 à Paris. C'est un lundi. Et le lundi, le musée du Louvre est fermé au public. Il est donc presque vide. Seuls quelques ouvriers décorateurs sont dans le bâtiment. Et justement, c'est le jour que choisit Perugia pour mettre à exécution un plan qu'il prépare depuis des semaines. Il entre discrètement dans le musée en tant que verrier, donc une personne qui fabrique les vitres de protection des œuvres. Alors, Perugia est réellement verrier et il travaille souvent pour le Louvre. Mais ce jour-là, c'est surtout un prétexte pour rentrer ni vu ni connu. Il se faufile alors jusqu'au salon où est exposée la Joconde, s'arrête, écoute, vérifie que personne ne l'a suivi et il décroche la Joconde du mur. Il se débarrasse rapidement du cadre et de la vitre du tableau qu'il cache vite dans le petit escalier de service et dissimule ainsi plus facilement le tableau sous ses vêtements. Ensuite, il se dépêche de sortir du musée, aussi discrètement que possible. Il le connaît très bien, le musée. Il y travaille. C'est grand, c'est un ancien palais royal, mais il sait exactement par où sortir sans se faire remarquer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il parvient à sortir du musée sans difficulté. C'est incroyable. Bon, il réussit à voler la Joconde. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand l'un des plus célèbres tableaux du monde se trouve dans notre salon et que la presse du monde entier parle de sa disparition? Eh bien, l'une des options est d'attendre un peu et d'essayer de revendre l'œuvre au marché noir sous un faux nom. Parfois, ça marche. Mais dans cet article du New York Times, Perugia explique ses motivations qui semblent être différentes. Il dit, je cite, « Souvent, pendant que je travaillais au Louvre, je m'arrêtais devant la peinture de Vinci et j'étais humilié de la voir ainsi en terre étrangère. La subtiliser fut très simple. Tout s'est fait en quelques secondes. Personne ne m'a vu. Personne ne m'a suspecté. » Subtiliser est un mot formel qui signifie voler. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que Perugia voulait que la Joconde retourne en Italie par-dessus tout et qu'il était prêt à prendre tous les risques pour cela? Ou bien est-ce qu'il était surtout intéressé par l'argent et que son patriotisme était surtout une excuse quand la police l'a arrêté? Quoi qu'il en soit, il a bien essayé de vendre l'œuvre à un collectionneur et ne l'a pas simplement déposée devant un musée italien. Alors, Perugia est bien jugé en Italie et il est condamné à de la prison. Mais sa peine est assez faible puisqu'il n'est condamné qu'à 1 an et 15 jours d'emprisonnement. Finalement, il ne reste en prison que 7 mois et il est même considéré à ce moment-là par certains Italiens comme un héros national qui a réussi à ramener la Joconde en Italie, sa véritable patrie. Quant au tableau, justement, on apprend lors du procès que Perugia l'avait gardé caché chez lui dans son appartement parisien du 10e arrondissement, tout près du Louvre, finalement, sans que personne ne s'en doute. Il aurait pu s'enfuir avec dès le début, mais en réalité, il a visiblement pris peur à cause de l'énorme médiatisation de l'affaire et de l'enquête de police. La Joconde est donc restée pendant 2 ans dans le double fond d'une valise sous le lit de Perugia, bien caché. Finalement, après l'arrestation de Vincenzo Perugia, la Joconde fait le tour de l'Italie pendant quelques jours pour être présentée au pays de son peintre, Léonard de Vinci. Puis, elle est ramenée en France et rejoint définitivement le Louvre le 4 janvier 1914, presque 2 ans et demi après avoir été volé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vol de la Joconde par Napoléon et pourquoi la Joconde est bien en France et pas en Italie? Alors, le tableau appartient bien à la France et Napoléon ne l'a pas volé, comme le prétend Perugia. En fait, c'est le roi François Ier qui l'a directement acheté à Léonard de Vinci au tout début du XVIe siècle. Depuis son retour au Louvre en 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale, Mona Lisa est extrêmement bien surveillée et elle ne quitte jamais le musée, comme cela peut être le cas pour d'autres tableaux qui sont parfois prêtés à différents musées pour des expositions temporaires. Donc, si vous voulez voir Mona Lisa, il faudra aller au Louvre parce qu'a priori, elle ne bougera pas. Finalement, le vol de la Joconde l'a rendue encore plus célèbre dans le monde entier. Bon, elle avait déjà une grande renommée avant cela. Elle était déjà considérée comme un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. Mais dès que les journaux ont appris qu'elle avait été volée, ils ont tous publié des images du tableau pendant des semaines. Et toute cette histoire a vraiment pris une ampleur internationale. Donc, en réalité, partout dans le monde, les journaux parlaient du vol de la Joconde au Louvre en affichant une photo de l'œuvre. Donc, même ceux qui ne connaissaient pas le tableau, qui ne l'avaient jamais vu, n'en avaient même jamais entendu parler, l'ont découvert à ce moment-là. Et aujourd'hui, la Joconde est probablement le tableau le plus connu du monde et elle attire toujours les visiteurs du monde entier au Louvre. Vous connaissez maintenant l'histoire incroyable du vol de la Joconde. Et la prochaine fois que vous la verrez en photo ou en vrai, vous pourrez échanger avec elle un sourire complice. N'oubliez pas de participer au concours pour gagner un exemplaire de mon livre « Je parle français » avec Madame à Paname et je vous dis à vendredi prochain.